Oui, merci Père Michel de ce texte que j'avais lu très rapidement et que vous avez éclairé, où là il n'y a pas de référence directe à un verset de la Bible, par exemple, c'est vraiment un épisode de la vie de Jésus, où donc il y a plusieurs personnages, il y a un pharisien, vous avez d'ailleurs souligné que chez Luc, les pharisiens sont accueillants, hein, et donc le regard est plutôt bienveillant, disons, dans l'écriture de l'Évangile, puisqu'il est désigné comme tel, hein, pharisien, un parouche. Voilà. En fait, il n'y a pas que ce pharisien, hein, qui s'appelle Simon, hein, Shimon, sans doute en hébreu, mais qui n'est pas le même Simon, évidemment, que l'apôtre. Mais il y a également des convives, donc il faut croire que c'est une invitation qui a pu se faire pour une réunion familiale, ou peut-être un Shabbat, ou une réunion amicale, où on pourrait inviter Jésus comme rabbi, puisque bon, maître, ça peut être aussi rabbi, donc verset 40. On pourrait attendre de cette invitation que le rabbi apporte son enseignement. Hein. Aussi, quand Jésus, j'ai pas la référence, mais quand il enseigne dans une maison à l'intérieur et qu'on lui annonce que sa mère et ses frères sont là, et qu'il dit ben, mes frères, qui est ma mère, qui est... Donc on voit Jésus comme un enseignant. Il enseigne aussi à la synagogue, il enseigne sur la montagne, il enseigne dans la plaine, il enseigne dans la maison. Et sans doute, il y a une volonté de s'attacher à l'enseignement du rabbi qui veut apprendre la foi en Dieu. Hein, la foi en Dieu. Et dans la logique pharisienne, oui, on veut toujours apprendre, connaître la foi, comment la vivre, comment l'appliquer. Alors, soit à travers les commentaires de la Bible, que Jésus enseignerait la Bible, par exemple à la synagogue, ou les prophètes, comme à la synagogue, justement, je crois que c'est Luc 4, quand il lit le texte, peut-être la Haftara, le texte des prophètes, et en donnant son commentaire. Et donc, c'est une manière de resituer, hein, dans le contexte d'une maison juive qui accueille le rabbi pour enseigner. Alors, il y a donc ce Simon, bien sûr, Jésus, voilà, les convives, et puis il y a cette femme. Alors, cette femme, bon, elle est appelée pécheresse. Hein. Alors, si on était dans un contexte biblique, un contexte juif, je crois qu'on ne dirait pas pécheresse, parce qu'autant que je me souvienne aussi bien des textes de la Torah que des textes du Talmud, si on veut parler, par exemple, d'une prostituée, on dirait pas rotet, une pécheresse, on dirait une zona. Donc ça veut dire que là, il y a une sorte de rupture dans l'écriture. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand les explorateurs envoyés par Josué au début du livre arrivent à Jéricho, alors on dit que Isha Zona, une femme prostituée. Alors Zona, prostituée, ça veut dire aussi celle qui alimente. Parce que Zona, c'est la zone, ma zone, rien à voir avec le site des GAFA. Il y a peut-être des gaffeurs, là, avec la pécheresse, mais c'est celle qui donne à manger, en fait. Et la Bible ne dit pas une pécheresse. Alors, je m'étais souvent posé la question, pourquoi on appelle... Alors, il y a deux types, hein, de prostituées. Il y a la zona, qui est la prostituée publique, si on peut dire, et puis il y a la kedesha, qui est la prostituée sacrée, comme cela est mentionné, par exemple, dans le livre d'Osée, Oshéa, qui sont en fait des vestales consacrées à la divinité, par exemple au Baal, la grande divinité cananéenne contre laquelle va par exemple lutter le prophète Élie, hein, dans le livre des Rois. Donc ici, bon, on n'est plus du tout dans un contexte de prostituée sacrée, donc si c'est une pécheresse, ça pourrait être une zona, Quel autre type ça pourrait être une femme adultère? Une femme adultère, elle est connue, mais en général, si ça avait été une femme adultère, on lui aurait réservé déjà le sort qu'on aurait réservé à l'autre qu'on voulait lapider. Donc il faut croire que c'est le statut de la femme, non pas adultère, mais une femme prostituée. Donc, c'est-à-dire il y a une fonction qui est reconnue d'une certaine manière au sein de la société humaine, comme on dirait, un des plus vieux métiers du monde. Alors, ce qui est gênant dans le fait de dire que c'est une pécheresse, c'est parce que ça déculpabilise les hommes. Et il faut que, bon, si on remet dans le contexte, qui faute? C'est l'homme qui a un désir de femme et qui n'est pas satisfait de sa propre femme et qui va chercher une autre femme. Ou alors, qui s'est retrouvé veuf, comme Judas, et qui, au moment où il va pour tondre les moutons, rencontre cette femme qui est Tamar et qu'il prend pour une prostituée. Hein? Et donc, c'est-à-dire que la prostituée, elle joue un rôle social. Hein? C'est-à-dire de canaliser le fantasme de l'homme, hein, c'est bien son rôle, voilà, et de l'accuser de pécheresse. Bon, ça, c'est moi, personnellement, je suis toujours gêné de dire qu'une prostituée est une pécheresse. Elle répond dans un système donné à une demande d'un homme qui n'est pas capable de maîtriser sa sexualité, qui n'est pas capable de vivre la sanctification au sein d'un couple, etc. Et au sein de cette société d'hier et d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que le pécheur, c'est plutôt l'homme, voilà, qui crée cette fonction, surtout que ces femmes sont souvent soumises à des proxénètes ou des gens qui les font travailler. Bon, et qui sont des fois dans des situations difficiles. Peut-être aussi parce qu'elle a besoin d'argent, cette femme. Et qu'elle, vous savez, comme on dit dans le statut de la Bible, la veuve et l'orphelin, il faut s'en occuper. Mais quand une femme ne peut pas nourrir, comme, je veux dire, les mentalités des gens n'ont pas changé. On entend des femmes qui se prostituent parce qu'elles n'ont pas de quoi terminer le mois, malheureusement. Voilà. Donc, du point de vue de la Bible, on dirait pas une pécheresse. Il y a des histoires, il y a des récits dans le Talmud, on raconte des femmes qui, on les appelle zona en hébreu, celles qui alimentent le désir de l'homme. Par contre, j'ai aimé cette progression du fait de dire qu'elle est une pécheresse qui devient une femme, c'est-à-dire qui est humanisée. Et le fait que Simon se dise, mais si Jésus, ce rabbi que j'ai invité, était prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. Hein. C'est-à-dire que la fonction prophétique, c'est aussi d'humaniser ceux qui sont disqualifiés aux yeux des hommes. Ou alors, qui sont enfermés dans une définition fonctionnelle. Comme j'ai travaillé sur Jonas, le prophète Jonas, il y a un peu cette même lecture que propose le père Michel, c'est que quand Jonas, le prophète, escalité ici, monte dans le bateau, eh bien, d'abord, les hommes du bateau sont appelés des matelots. Mais quand ils découvrent que Jonas, Yona en hébreu, est envoyé de Dieu, puisqu'il tire au sort, et à chaque fois, on tombe sur Jonas, c'est lui la cause de la tempête. À ce moment-là, ils ne sont plus appelés matelots. Ils sont appelés des hommes. Les hommes ont eu peur. Donc, on pourrait dire la fonction prophétique, et ici, Jésus, disons, le texte répond à Simon, c'est-à-dire l'évangéliste pourrait répondre à Simon, oui, Jésus est un prophète, parce qu'il humanise. C'est parce qu'une prostituée, c'est d'abord une femme. Une femme prostituée, mais c'est d'abord une femme. Et on a tendance à, de façon générale, peut-être c'est une leçon que nous donne Jésus ici, de ne pas oublier l'humanité des uns et des autres. Vous voyez ? on dit les migrants, on dit les juifs, on dit les arabes, on dit les noirs. On les a tellement enfermés dans ce qu'on voit qu'on oublie de dire ben, c'est un homme migrant ou une femme migrante, c'est un homme juif, un homme noir, un homme arabe, etc. Et c'est réducteur. Et quand c'est réducteur, ben, c'est dangereux, quoi. Parce qu'on enferme à ce moment-là les personnes dans un anonymat. Et puis, à ce moment-là, on peut les dénigrer parce qu'ils font partie du groupe de qu'on veut condamner, par exemple. Donc Jésus, ici, veut redonner dignité. Donc, tu vois cette femme. Moi, j'aime bien l'idée « tu vois ». Parce que jusqu'à présent, tu vois une pécheresse, donc tu es obligé de voir une femme pécheresse. Alors supprime le pécheresse, il reste femme. Donc une sorte d'équation réhumanisée. Alors sur le fait de s'étendre, c'est vrai que le soir de Pessah, le soir de Pâques, dans la communauté juive, justement, quand on boit le vin, eh bien on doit prendre l'attitude accoudé, parce que les hommes libres, c'est un peu le cas ici, mangeaient accoudé, et donc sur des lits. Voilà, donc ça devait être la mode un peu romaine, gréco-romaine, qui avait influencé également les juifs, les judéens de l'époque, où on mangeait devant des tables basses, allongées, en signe de liberté. Alors, bon, la question, bien que vous ayez apporté une réponse, mais qui est extérieure au texte, bon, c'est d'où ça vient cette attitude ? C'est vrai que c'est une attitude assez originale, quoi. Je veux dire, une femme qui vient avec un vase d'huile parfumée, laver les pieds, essuyer avec les cheveux, c'est assez étonnant. Hein, c'est... Jésus se laisse faire. Personne n'est, enfin, on est étonné parce que c'est une pécheresse, mais on n'est pas étonné parce qu'elle agit de la sorte. Est-ce que c'était courant que quand quelqu'un arrive à la maison, il y a une femme qui dit tiens, je vais lui laver les pieds avec mes cheveux. Pourquoi pleure-t-elle ? Voilà, quel est le sens de ses larmes ? Hein ? Voilà. Bon, et en même temps, il y a quelque chose qui peut rappeler un peu le Cantique des Cantiques. Voilà, là. Alors, il y a deux éléments que j'ai pensé en écoutant ce texte. Bon, d'abord, il y a le fait de laver les pieds en Genèse 18:4, quand Abraham reçoit. C'est-à-dire, on lave les pieds, parce qu'ils sont pieds nus, les pèlerins, ou ils sont en sandales. Et donc, laver les pieds, c'est vraiment la coutume antique de l'hospitalité. Dire voilà, tu as marché. Abraham dit voilà, vers les trois personnages, voilà, on vous lavera les pieds, on vous donnera à manger, vous serez à l'ombre. Voilà, donc c'est vraiment la pratique de l'hospitalité. Deuxième élément qu'on pourrait faire lien, c'est dans le livre de Ruth. Hein, dans le livre de Ruth, alors c'est au chapitre 3, je crois, c'est quand Noémie demande à Ruth d'aller se coucher aux pieds de Boaz. Voilà. Il y a une thématique ici, me semble-t-il, qui est reprise, bien sûr, dans le langage de Luc. C'est la thématique d'une femme qui est étrangère, elle n'est pas judéenne, elle n'est pas israélite, elle n'est pas hébreu, c'est Ruth, hein, qui est issue d'un péché, si on pourrait dire, qui est issue de... de la relation intime entre le père, Lot, et puis sa fille aînée. Hein, donc il va avoir un enfant. Cet enfant, ils vont l'appeler Moav. Hein, c'est les seuls rescapés de Sodome. Et puis donc Moav, c'est une lignée, on pourrait dire, de pêcheurs, de pécheresses. Hein. Et voici que Ruth, qui descend de Moav, va aller vers... Boaz, qui lui descendant de Judas, et qui se met à ses pieds, quoi. À sa tête à ses pieds, donc peut-être les cheveux de Ruth touchent les pieds de Boaz. Pourquoi je dis ça ? Parce que ces textes de la Bible sont tellement prégnants dans la culture juive que il suffit peut-être de faire des allusions, enfin, quand on connaît les textes, hein, voilà, de faire des allusions pour pouvoir faire des ponts. Voilà. Et en fait, la pécheresse qui rentre dans la foi de Dieu, hein, puisque finalement elle va être libérée, hein, c'est ce que dit le texte ici, elle est libérée de du premier mari qu'elle devrait épouser dans le livre de Ruth. Vous relirez le livre de Ruth, c'est très très court comme texte. Et ainsi, on délivre Goël, on délivre de ce passé, de ce fardeau peut-être, de la faute originelle. Et puis maintenant, par le mariage, au contraire, la maison se reconstruit, et puis Boaz et Ruth sont à l'origine de David, David l'ancêtre du Messie. Voilà, on retrouve ici la fonction messianique. Donc c'est à quoi j'ai pensé, bien que cette pratique est assez étonnante, et ne semble pas heurter les convives, hormis que cette femme est connue par ailleurs comme pécheresse. Alors moi aussi j'avais une question que j'aurais voulu poser à Jésus si j'avais été, c'est-à-dire, est-ce que vraiment, parce que quelqu'un doit 500, d'autres 50, j'aurais posé la question à Jésus, mais quel est l'avoir du premier créancier, du premier débiteur et deuxième? Parce que si le premier est très riche et il perd 500 et que l'autre est très pauvre et 50, peut-être que 50 pour l'un, ça vaut 500 pour l'autre. Donc, moi, j'aurais aimé discuter avec le rabbi. Je lui dis, attends, tu me dis, rabbi, tu me dis ça, mais quelle est la situation? Est-ce que, et puis, est-ce que l'amour, ça se mesure? Qui d'entre eux l'aimera plus? Donc, moi, j'ai besoin de savoir, en amont, quelle est la situation financière et économique de l'un et de l'autre. Ce que j'entends, c'est que Jésus dit, on ne peut pas aimer deux maîtres. Ça, j'ai entendu que... Surtout s'ils sont en contradiction, on aime l'un, on déteste l'autre, mais la quantité d'amour, j'aurais aimé poser la question. Bon. Alors, en tout cas, tu as bien répondu, je pensais à Jérémie 1,12, quand Dieu dit à Jérémie, il lui monte un rameau d'amandier, et puis il lui dit, bah, t'as bien répondu, il t'afta l'irote, t'as bien vu. Donc, il semble peut-être aussi bonne réponse, voilà. Et alors, bon, aussi Simon, peut-être que Simon, il est peut-être timide, hein, peut-être qu'il ne peut pas épancher, tout le monde n'a pas forcément l'expression généreuse d'embrasser le maître, de lui laver les pieds. Mais d'un autre côté, c'est vrai, cette femme, elle est très... Jésus voit dans cette gestuelle, en tout cas, une marque d'attention, d'amour. Alors, de l'huile sur la tête, bon, on le trouve dans le psaume 23, 5, hein, c'est-à-dire que c'était une coutume qui s'est perdue. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à la maison, on ne lui verse pas de l'huile sur la tête. Mais à l'époque, ça se faisait, surtout que c'était de l'huile parfumée. Mais je me souviens, dans les vieilles familles séfarades, je suis séfarade d'origine, que lorsqu'on recevait, enfin, c'est ma grand-mère, paix à son âme, qui me racontait que quand on revenait du désert en chameau, que les maîtresses de maison avaient des aspergeurs d'huile parfumée et on jetait sur la personne. Vous voyez, donc c'était des traditions orientales très très anciennes, parce que la personne transpirait, donc devait sentir la transpiration, et devait sentir le chameau ou l'âne. Donc, oui, donc verser un peu de l'huile sur la tête, c'était vraiment un signe d'accueil, de reconnaissance, d'hospitalité orientale. Alors, peut-être aussi une autre question, parce que en hébreu ça s'entend pas, mais en grec, il y a trois formes d'amour, hein. Parce qu'elle a beaucoup aimé, est-ce que c'est du même ordre? Elle a beaucoup aimé, est-ce qu'une prostituée, elle aime vraiment? Voilà. Ou est-ce que c'est son job, hein? Voilà. Aujourd'hui, on appelle ça, je crois, les travailleuses du sexe. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est de l'amour, ça? Donc, est-ce que c'est du même ordre, l'amour, par exemple, agapé, qui est l'amour de Jésus pour l'humanité, à cet amour de femme qui en fait elle n'aime pas, elle est un objet de convoitise, de désir, elle reçoit son salaire, et puis voilà. Bon. Donc cette femme a beaucoup aimé, c'est-à-dire, bon, elle a eu beaucoup de relations, mais c'est ce qui va sauver, c'est est-ce qu'elle est capable d'un amour authentique.
Là, tu prends elle a beaucoup aimé comme étant la traduction ou l'expression de son activité antérieure.
Oui.
Pas dans les gestes qu'elle fait à l'égard de Jésus.
Oui, c'est une ambiguïté, en fait. Oui, c'est vrai que je... Parce qu'elle a beaucoup aimé. Alors, c'est peut-être ambigu. Peut-être que parmi toutes ces activités amoureuses, il y en a une qui est authentique. Voilà, qui est vraiment amour agapé.
D'ailleurs, le verbe, c'est agapao. Hein,
c'est agapao aussi.
À chaque fois qu'il y a aimé, c'est agapao. Pour baiser, c'est philéo ou cataphileo.
Mais... Aimer, c'est pas Eros, en tout cas. Ouais, en tout cas, son activité, c'est Eros. Voilà. Donc, alors, lui sont remis ses péchés. Alors, tu as posé la question, bon, est-ce que la fonction messianique dans la tradition d'Israël, c'est une fonction aussi de pardon? Si on se réfère à Lévitique chapitre 16... qui décrit le rituel du pardon, c'est-à-dire le jour du Kippour, hein, qui est très différent de celui que nous vivons aujourd'hui dans les synagogues, puisque tout tourne autour du Kohen Gadol, du grand prêtre, et puis du tirage au sort des deux boucs, dont le bouc émissaire, qui porte les péchés. Hein. Et le verset, donc Lévitique 16, verset 30, dit clairement que c'est Dieu à chaque fois qui bayom azé, car en ce jour-ci, il sera fait expiation pour vous, les taretrem, pour vous purifier de tous vos péchés. Devant le Seigneur, vous serez purifiés. Alors, simplement, le Kohen, Gadol, le grand prêtre, lui, doit accomplir un certain rituel, mais le mot final, en quelque sorte, le pardon, c'est Dieu qui l'accorde. Hein. Donc, on ne voit pas non plus la fonction messianique, c'est la fonction de rassemblement, c'est la fonction de la proclamation de Dieu, de l'unité de Dieu, la reconnaissance de l'humanité tout entière dans Dieu, le Seigneur, le Roi, la royauté de Dieu. Alors... Mais en même temps, bon, ce texte, il est extraordinaire parce que c'est ta foi t'a sauvé. Donc en hébreu, on entendrait ta emuna. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, cette femme qui a cette foi et qui traduit cette foi dans l'amour, donc cet amour agapé, serait une salvateur, en fait. La foi est salvatrice ici. Maintenant. Contrairement, là c'est aussi une question, c'est quand il dit va en paix, est-ce que c'est la même chose que quand il dit à la femme adultère va et ne faute plus, hein? L'er, en hébreu, ça se dirait l'eri, les shalom. Est-ce que ça veut dire va vers ta paix intérieure, va vers Dieu dont le nom est shalom, et à ce moment-là arrête ton activité, ou bien ça veut dire tu peux reprendre ton activité, hein? Ou est-ce que ça veut dire justement que c'est justement cette transformation qui fait que cette femme ne va plus être pécheresse et que c'est l'amour que Jésus donne à cette femme qui va finalement la remettre en cause et elle arrête d'être pécheresse. Ce qui pourrait donc dire d'ailleurs que il vaut mieux aimer les gens que les haïr, les attirer par l'amour plutôt que par des invectives, pour espérer d'eux cette réponse de l'amour, hein, que la condamnation ne permet pas à cette femme de sortir de sa condition de pécheresse. Donc c'est aussi une pédagogie de Jésus qui nous est enseignée ici, la pédagogie de l'amour. Hein. C'est-à-dire que si on regarde de travers, cette femme elle reste enfermée dans le premier regard qu'on a porté sur elle. Et c'est peut-être en ce sens du fait que Jésus nous surprend parce qu'il pose le nouveau regard sur cette humanité C'est une femme digne de ce nom, une descendante de Ève, hein, porteuse d'avenir, comme on avait dit la dernière fois, que le Zahar, c'est le souvenir, mais que Nekeva, c'est l'ouverture vers l'avenir, c'est redonner à cette femme son avenir. Peut-être que va dans la paix, ça veut dire trouve-toi un mari, fais des enfants, deviens une bonne mère juive, occupe-toi de ta famille et arrête ces activités qui finalement ne t'apportent pas le bonheur et tu fais tourner la tête aux hommes et ça vanité des vanités, tout est vanité. Donc est-ce que ce va en paix, c'est pas aussi une invitation à changer de vie. Voilà un peu les réactions, comme ça, chose que je découvre plus ou moins ce texte.
Alors, je réagis juste sur Genèse 18. De fait, c'est quelque chose qui peut être indiqué, je ne sais pas, dans les parallèles bibliques, une note marginale. Donc, le fait que, par exemple, Abraham accueille les trois hôtes, enfin, les trois personnes qui passent, en leur lavant les pieds. De fait, il y a quelque chose qui peut être utilisé pour la lecture de ce texte, parce qu'en fait, ce que Jésus fait, c'est une comparaison d'hospitalité entre la femme qui accueille, enfin qui manifeste, je dirais, la qualité, l'estime qu'elle a de celui qu'elle accueille, par une espèce de multiplication d'actions positives, par rapport à une hospitalité qui est effective, celle de Simon, mais qui reste très mesurée, peut-être en raison de sa timidité, comme Philippe le disait à l'instant. Il y a une comparaison, par exemple, qui peut être faite si on renvoie à Genèse 18, on peut penser aussi à l'hospitalité que Lot accorde aux deux envoyés, qui met vraiment une distance, ou qui fait d'Abraham le champion de l'hospitalité, le maître en hospitalité, l'hospitalier par excellence, alors que Lot est pauvre en hospitalité à côté, même si, bien évidemment, il fait aussi ce qu'il doit faire. Voilà, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser? Oui.
Dans la traduction que vous donnez, il y a celui de la similité prophète, saurait, et vous mettez entre parenthèses, connaître.
Oui, parce que c'est le verbe ginosko.
Oui, mais est-ce que c'est
comment? Oui, alors je n'irai pas jusque-là. C'est simplement, j'ai voulu dire qu'il y avait un autre verbe grec qui était là, mais c'est plutôt dans le sens, il y a une connaissance intuitive, immédiate, vous voyez, que le prophète, en raison de ses capacités, du don qui lui a été fait, est capable d'avoir sur les personnes qui se présentent à lui. Mais comme je disais, un peu de manière ironique, c'est pour ça non plus qu'il ne faut pas trop valoriser la chose. Est-il si difficile d'identifier une pécheresse dans les gestes qui sont les siens? Il y a quelque chose de très étonnant dans sa manière d'exprimer son attention à l'égard de Jésus. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce que Philippe disait à propos de pécheresse et prostituée, en insistant. La Bible n'utilise pas ce terme de pécheresse, enfin la Bible. Hébraïque n'utilise pas ce terme de pécheresse pour qualifier une personne, mais plutôt la qualifie selon la fonction qu'elle occupe.
Oui, c'est une règle générale. C'est bon. On ne dit pas tu honoreras tes parents, mais ton père et ta mère, par exemple. C'est-à-dire, on reconnaît à chaque fois la fonction, le rôle, si on peut dire. Ce n'est pas les parents, parce que même quand Dieu dit à oser de prendre, c'est vraiment un ishazona, c'est-à-dire ils sont appelés comme tels, quoi. La femme prostituée. Oui.
Oui.
Vous avez dit qu'elle avait un rôle social et ça lui permet de rentrer comme ça sans être invitée.
Oui, ça fait partie de l'étonnement du texte. Oui, c'est une femme qui arrive. C'est le questionnement par rapport au texte. Elle arrive, elle. En tout cas, on ne veut pas lui jeter la pierre. Elle agit, elle étonne. On accepte. C'est un texte étonnant.
Je vois l'embarras, si vous voulez, de celui qui, du propriétaire de la maison, quand même, hein, qui va débarquer en plein repas où il y a des convives, donc manifestement Jésus n'est pas tout seul. une femme qui n'était peut-être pas inscrite sur les listes et qui ne ressemble pas exactement à celle ou à ceux qui l'a invitée. Hein. Tout de même, ça vaut la peine justement de partir de cette étrangeté, une étrangeté manifestement sur laquelle l'évangéliste veut nous faire durer, puisque, comme je le soulignais, les verbes sont à l'imparfait, donc il y a une manière de... Voilà, on voit la chose, ça dure un peu longtemps. Et imaginez Jésus. L'évangile est très court, hein. La Bible est très courte de manière générale, même si vous avez dans une Bible une part sensiblement plus importante laissée à la Bible hébraïque par rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Et la Bible est très courte, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on ne vous rapporte pas. Voilà. Qui soit ne sont pas nécessaires, soit se comprennent, vous voyez, elles sont pas, c'est toujours la même raison, elles ne sont pas nécessaires, elles se comprennent d'elles-mêmes, soit demandent au lecteur d'intervenir. Voilà, c'est-à-dire de suppléer en quelque sorte l'information qui manque. Et donc d'entrer en relation avec cette parole, qui n'est plus tout à fait un texte, hein, cette parole, et voilà, et d'y découvrir, comment dire, une espèce d'enseignement pour sa propre vie. Voilà. Là, il y a très peu de choses qui sont dites. Jésus ne réagit pas, on ne dit rien. Tout à l'heure, Philippe insistait sur le fait que quand on mangeait de manière étendue, c'était le signe d'un homme libre. La liberté de Jésus est quand même phénoménale. Quand même, on vient vous faire des papouilles aux pieds, et vous ne bougez pas. Et pas simplement des papouilles, veut dire, elle pleure, enfin, voilà. Le pied dans la Bible, que Philippe me corrige si je dis des bêtises, c'est quand même un symbole sexuel en particulier. Donc quand on parle d'une pécheresse qui est là en train de masser les pieds de Jésus avec ses larmes, les essuyer, verser du parfum, il y a quelque chose qui est presque obscène à la limite, sauf pour Jésus. Qui ne voit pas l'obscénité, mais qui voit l'amour tel que cette femme peut l'exprimer. Avec le langage qui est le sien, qui est peut-être un langage pauvre, un langage formaté par son expérience, mais qui, dont Jésus souligne l'authenticité. En tout cas, qu'il est, on pourrait dire, gros d'une... Il est adéquat à l'identité de celui à qui ce langage est adressé. Voilà. Elle n'est pas là en train de dire « c'est le Messie », mais il y a une espèce de confiance ou d'espérance dans ses gestes en quelqu'un qui a une capacité pour elle, qu'elle ne sait plus que nous. Peut-être qu'elle a entendu parler du fait que Jésus avait prétendu avoir la capacité de pardonner les péchés, il n'empêche. Voilà, à un moment donné, il va y avoir cette déclaration, tes péchés sont remis. Oui, ça c'est un point aussi sur lequel il faudrait peut-être revenir. Tes péchés sont remis, c'est un passif. Les gens réagissent en disant, qui est celui-là qui même les péchés remet? C'est un actif. Mais Jésus est déclaré. Voilà. Ça ne veut pas dire que pour Jésus, dire c'est ne pas faire, mais il faut laisser, je dirais, cette ambivalence. Il y a une forme de déclaration. Comme un prophète, par exemple, qui, voyant l'œuvre de Dieu, est capable de dire « Tes péchés sont remis ». Prenez par exemple Nathan avec David, « Ton péché est remis ».
Oui.
Pas qui veut parler ?
Oui, monsieur.
C'était sa petite précision. Est-ce qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que dans le mot « pécheresse », indépendamment de ce que vous avez dit pour l'hébreu, c'est, il faut comprendre « prostituée ». Ça ne peut pas être... Est-ce qu'il y a une autre Marie qui a été guérie de démons ou autre chose? Enfin bon, je ne sais pas si c'est...
Justement, dans les versets qui suivent, on parle de Marie-Madeleine, de laquelle Jésus a chassé 7 démons.
Oui, c'est pour
ça que... Et j'avais un maître qui précisait, on ne sait pas combien il en est resté.
Ça veut dire forcément prostituée...
Pas nécessairement forcément, parce que voilà, pas nécessairement forcément, même si la prostitution ou l'adultère... Ça peut être un terme générique pour qualifier le péché. À partir du moment où vous comprenez que l'alliance a une dimension d'épousaille, tout péché, quel qu'il soit, même si c'est pas du tout, c'est pas un adultère effectif, mais un vol, un meurtre, un déshonneur à l'égard des parents, etc., peut être considéré, peut être qualifié, c'est un genre c'est le genre d'adultère. On l'a vu dans l'épisode de la femme adultère. Si les gens s'en vont, c'est pas nécessairement qu'ils ont commis des adultères comme la femme, et donc se sont rendus incapables de la juger. Mais en étant pécheurs, en découvrant leur propre péché, d'une certaine manière, il y a une forme d'adultère dans la relation avec Dieu. Enfin,
C'est ça, tout à fait. La fidélité à Dieu, c'est l'adultère.
Vous excluez que ça puisse être une idolâtre?
Moi, oui. On est quand même dans l'Évangile, c'est-à-dire en monde juif. Il y a des centurions, il y a des romains, il y a des païens qui sont là, mais il n'est pas dit que cette femme soit une païenne. Généralement, les évangélistes le disent quand c'est une personne qui n'est pas juive. Donc on est vraiment dans le monde juif. Ou alors c'est une idolâtre au sens où la Bible l'entend. L'idolâtrie fait partie des tentations, des péchés commis. C'est en ce sens-là. Mais au fond, c'est pas une idolâtre au sens d'une païenne, de quelqu'un qui est étrangère à la communauté juive.
Oui, puis est-ce qu'on peut pas dire justement que les évangiles veulent présenter tous les cas de figure de la femme? C'est-à-dire qu'elle est adultère, elle est donc ici prostituée, elle a une maladie, elle a...
Pour revenir à ce que disait Philippe tout à l'heure, parler de péché sans nous dire lequel, c'est peut-être précisément nous rendre incapables, enfin comment dire, nous dire c'est pas l'essentiel. Le prophète, comme Philippe l'a très bien dit, c'est quelqu'un qui est capable d'humaniser ceux qui sont disqualifiés. À se concentrer sur le péché, à vouloir l'identifier, on fonctionne à l'inverse de Jésus dans ce passage. Il y a un état de fait. C'est les gestes, vous voyez, le fait qu'on nous le précise tout de suite au verset 37, d'une certaine manière, qualifie les gestes qui vont être posés. Ces gestes expriment le péché de cette femme. Enfin, pas simplement le péché de cette femme, parce que Jésus n'y voit que l'amour dont elle est capable. Voilà. Mais on peut très bien, à partir du péché, se faire une idée, enfin, à partir de ses gestes, en quelque sorte, identifier le péché qui est le sien. Mais quand on va dans ce sens-là, est-ce qu'on est dans la logique de l'Évangile, voyez, qui nous fait passer d'une pécheresse à une femme? Voilà. Et au terme, ta foi t'a sauvé en paix, qui pour moi est plutôt le sens, qui va plutôt dans le sens, pardon Philippe, mais ne retourne pas ton travail. ou voilà. Il y a une espèce de... Elle se comporte comme quelqu'un qui est déjà sorti de la catégorie dans laquelle on l'a informé. Elle entend une parole qui la confirme en quelque sorte dans cette situation. Tes péchés sont remis. Désormais, voilà. Va en paix. T'es sauvé.
Oui, je voulais réagir au fait que vous aviez dit que la phrase ta foi t'a sauvé n'avait rien à voir avec le reste du texte et ça arrivait un peu comme un truc sur la suite. Pour moi, en fait, tous les gestes que fait cette femme sont des gestes d'amour et de foi, puisque la foi c'est un peu. Et donc si elle fait ça, c'est qu'elle a déjà reconnu en fait Jésus comme étant le Messie ou quelqu'un qui est capable, ne serait-ce que par son regard, de la relever, justement du regard que les autres posent sur elle en tant que pécheresse, et que ce soit qu'elle ait déjà été exaucée dans ses voeux de devenir d'être pardonnée. Ou qu'elle fasse ça pour être pardonnée, en fait, c'est toujours des actes de foi. En fait.
Oui, je m'exprimais là-dessus quand je disais ça vient comme un cheveu sur la soupe, c'est simplement d'un point de vue littéraire. Jusqu'à présent, le vocabulaire n'avait pas été utilisé dans le texte. Mais j'ai essayé de le valoriser. C'est-à-dire, je prends le texte tel qu'il vient, et ultimement, ce que Saint Luc me dit, ou ce que Jésus me dit dans l'Évangile, c'est qu'en définitive, ce qu'elle a manifesté, ce n'est pas simplement de l'amour à l'égard de Jésus, mais c'est aussi un acte de foi. Et l'acte de foi, j'ai essayé de le caractériser, vous voyez, c'est ce qui nous fait anticiper sur la grâce. Elle se tient devant Jésus comme une femme graciée, et Jésus va en quelque sorte confirmer cet état, cette situation.
De la pécheresse, trois fois les pieds. Elle est de l'eau sur les pieds. elle a baisé mes pieds, justement, et le parfum sur mes pieds. Est-ce que ce n'est pas d'abord une attitude de demande, d'aide, et est-ce que ça ne pourrait pas rappeler l'attitude du Christ avant les pieds, une prémonition, une préparation?
Oui, oui, tout à fait. Enfin, c'est y a pas mal de commentaires patristiques, hein, qui, précisément en raison de l'importance que les pieds ont ici, souligne l'humilité, en quelque sorte, qui est celle de la femme. Enfin, c'est vraiment une caractéristique. Quand Jésus, par exemple, lave les pieds de ses disciples, c'est bien la condition de serviteur qu'il adopte, alors même qu'il est le maître. Voilà. Donc c'est vraiment, on souligne l'humilité de cette femme. Ben, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Les pieds, c'est ce qui lui sont présentés aussi, hein, s'ils sont couchés avec eux. S'ils mangeaient dans l'autre sens, peut-être c'est la tête qu'elle aurait.
Ils sont à plat ventre ?
Ils sont allongés.
Sur le côté.
Sur le côté.
On est allongé sur le côté gauche, pour être précis, pour ne pas avaler de travers. C'est très... Oui. Que l'œsophage, ça passe par l'œsophage. Donc, mais on était allongé sur le côté. Et donc, il y a des plateaux, enfin, il y a des tables basses. Ça, on voit ça dans. On a trouvé ça dans l'archéologie, dans les tableaux. Hein. Toujours allongé. Et il y a les serviteurs qui posent les mets sur les tables basses. Voilà, les gens se servent. Donc le corps est couché, donc les pieds, disons au moins les mollets et les pieds sont nus, hein, puisque voilà, si on a une tunique, donc on retire les sandales, donc il reste les pieds nus et les mollets, ce qui est la partie la plus découverte. Bon, il y aurait peut-être les bras aussi, les mains, le visage, mais...
Pour une autre référence à la Bible hébraïque, il y aurait peut-être, je pense à, alors de manière indirecte, mais je pense au cantique d'Isaïe, hein, que je chante à mon ami, le chant de mon bien-aimé pour sa vigne. Pourquoi j'y pense? Parce que, vous voyez, on va parler d'amour qu'un homme, un propriétaire, est censé avoir à l'égard de sa vigne, et cet amour va être exprimé de manière extrêmement concrète. Ça veut dire par des actions. Il va épierrer, il va construire une clôture, il va construire une tour, etc. Toutes ces actions sont l'attestation précisément de l'amour que ce bien-aimé a pour sa vigne. Ici, vous avez des actions, et c'est là-dessus que Jésus insiste. Hein, cette femme, il la qualifie selon ce qu'elle fait. Voilà, l'amour est extrêmement concret. C'est pas un sentiment, c'est une manière d'agir, hein, une manière de bien agir.
Je sais pas si c'est... Oui, c'est très hébraïque, ça, parce qu'en fait, on est ce qu'on fait. Parce que le verbe est toujours avant le sujet, donc c'est le verbe qui définit le sujet. Donc il n'y a pas de sujet absolu en disant « je suis ». On est ce qu'on est en train de faire. Donc si on mange, on est le mangeant. Si on dort, on est dormant. Si on parle, on est le parlant. On est toujours... Là, c'est très lié à la mentalité biblique, hein.
L'amour est la cause du pardon. C'est l'amour de la femme ou c'est l'amour de Jésus, l'amour de Dieu ?
Non, c'était plutôt l'amour de la femme là, que je voyais. Celle qui a beaucoup aimé, il sera beaucoup remis. Voilà. C'est-à-dire que, au fond, la règle fondamentale, c'est le pardon qui est la source de l'amour. Mais là, vous avez un évangile où précisément. L'amour est présenté aussi comme une source du pardon. Autrement, alors on peut toujours essayer de se dire c'est une faute d'écriture. Vous voyez, Saint-Luc qui n'a pas corrigé ultimement ce petit détail. Et puis on peut aussi se dire, bah, s'il l'a peut-être laissé, c'est qu'il y a du sens. Voilà, et que peut-être que si je me situe dans cette logique, en réalité, même si le pardon est toujours gratuit, je me situe finalement dans une logique qui est celle du pardon déjà. Donc je l'encourage ou je me dispose à le recevoir.
Est-ce que cette attitude assez étonnante, mais est-ce que ce n'est pas finalement la teshuva, le repentir de la femme, au final? Et c'est ça que Jésus reconnaît, c'est-à-dire que finalement, toutes ces fautes, tous ces péchés avec d'autres hommes, voilà,
ça va l'oublier.
Et puis maintenant, elle vient, elle fait son... C'est ce qui expliquerait ses larmes en particulier. Voilà,
ce qui va assez bien avec saint Luc, parce que c'est le seul à préciser, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Sur la question de la métanoïa, la tchouva, il insiste là-dessus, oui.
Oui, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur. Voilà.
Et donc là, on est vraiment une pécheresse qui exprime son repentir. Tout le monde est soit comblé, soit assommé, soit timide, comme Simon qui n'ose pas. Voilà, bon, bah, écoutez, on a terminé donc cette année. Merci à Philippe et à...